Forum violences sexuelles écoutées, protégées, réparées, un forum organisé par l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, IFDJ Louis Joanet. Ce forum s'est déroulé le samedi 15 mars 2025 au campus de la Nive à Bayonne. Et dans le cadre de ce forum, il y a eu le témoignage d'une victime d'agression sexuelle à la maîtrise épiscopale de Bayonne, M. Jean-Baptiste Arégui. Il a accepté une nouvelle fois pour l'antenne de Radio La Pourdie de nous partager son témoignage. Nous lui ouvrons donc notre antenne et nous lui donnons la parole. Monsieur Jean-Baptiste Arégui, bonjour.
Oui, bonjour. C'était la première fois que je témoignais devant un public. J'ai organisé mon témoignage autour de quatre lieux, Bayonne, Ustaritz, Cambeau et ce que j'ai appelé le village. Bayonne, l'évêché où j'ai suivi des violences sexuelles. C'était il y a longtemps, il y a 64 ans, mais le traumatisme est toujours là, ineffaçable. C'était en 1961, j'avais 11 ans, quand je suis entré en classe de 6e à la maîtrise épiscopale de Bayonne, qui était un établissement scolaire assez particulier. D'un côté des études, et de l'autre, une chorale de l'évêché composée de garçons pré-ados, tous séminaristes. En sixième, nous apprenions le chant grégorien, pendant que les cinquièmes chantaient tous les matins la messe pour les chanoines du chapitre. C'est une sorte de gouvernement de l'évêque. Nous étions une trentaine d'élèves au total, tous internes, logés dans l'immeuble de l'évêché. Une porte communiquait d'ailleurs avec l'appartement de l'évêque. Après le cours de chant, mon professeur de chant me demandait de l'aider à transporter du matériel, partitions, livres, dans son bureau, qui était dans sa chambre. Il se jetait sur moi pour m'embrasser en pénétrant profondément sa langue dans ma bouche, tout en caressant mon sexe et mes fesses. J'étais sidéré, pétrifié, je ne savais plus où j'étais. Ses agressions étaient brèves, mais quasi quotidiennes. Il avait un véritable mode opératoire très discret. J'étais sa chose, j'étais sous emprise. J'en ai parlé très vite à un copain de cinquième qui m'a juste répondu deux mots, moi aussi. Nous n'en avons plus parlé jusqu'à devenir adultes. Ustaritz, Saint-François-Xavier, là c'était des violences morales, psychologiques. Après la cinquième, direction le petit séminaire Saint-François-Xavier d'Ustaritz, il m'a fallu choisir un directeur de conscience obligatoire pour tous les séminaristes. Celui-ci me pose très rapidement la question « As-tu eu des soucis avec ton professeur de chant à la maîtrise ?» J'ai été très ému par cette question. J'ai répondu que oui, comme si j'avais à répondre à un enquêteur. Je comprends que je n'étais pas le premier et que ça se savait. Très vite après, je suis convoqué par le supérieur de l'établissement qui, très gêné, se met à me donner des conseils sans raison apparente. « Ne sois pas trop sensible » et ne porte pas de chemise de couleur claire. Je comprends que j'étais en partie responsable de ce qui m'était arrivé à la maîtrise. Il a ainsi inversé la culpabilité, et c'est pour moi à vie. Mon directeur de conscience viendra rendre visite à ma mère régulièrement pour contrôler mon silence. Voilà, le système protecteur de l'Église était mis en place. J'étais un gamin qui risquait de parler. Cette violence morale a été encore plus violente que celle de mon abuseur qui était un malade. J'ai cherché à me débarrasser de cette culpabilité en témoignant auprès des instances mises en place par l'Église, la commission d'enquête de Jean-Marc Sauvé, la CIAZ, puis les instances de reconnaissance et de réparation, et enfin l'évêché de Bayonne, qui ont toutes eu du mal à reconnaître cette violence dite systémique que j'avais subie à Ustaritz. La CIAZ publie ses rapports précieux. Et là, je fais une découverte incroyable. Le rapport de l'École pratique des hautes études parle de Cambeau-les-Bains. Cambeau, Arditeia, Arsindeia, troisième étape. Un groupe de chercheurs recrutés par la CIAZ, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, pour analyser les archives des diocèses, découvre l'existence d'un véritable service, le secours sacerdotal, pour aider les prêtres dans la brume. Jolie métaphore. En 1956 est créé à Cambo le premier centre médico-psychologique pour traiter les prêtres déviants, entre autres auteurs d'abus sexuels sur mineurs. Ce centre a été dirigé par l'abbé Courtelard, directeur d'Arditeia, la bergerie, qui était un centre de formation pour personnel de sanatorium. Il installe le centre psy dans une grande villa appelée Arsaindeia, l'appel du berger. Il a fonctionné jusqu'en 1962, avant d'être transféré à Bruges, en Gironde, puis en région parisienne, en 1969, à Mongers, près de Meaux. Il y fonctionnera jusqu'en 1985. C'était une innovation intéressante, en rupture avec la mise à l'écart pratiquée jusque-là, en pénitence dans des monastères ou des abbayes. Elle a été initiée et animée par une équipe de psys, souvent prêtres, venu de Bordeaux et Paris. Marc Oraison, un prêtre psychologue, très mal vu au Vatican, a suivi de près cette œuvre. Dans ses mémoires, il y consacre un chapitre élogieux. Il parle de rencontres-colloques organisées tous les week-ends de Pentecôte, fréquentées par beaucoup de psys et même des évêques comme celui de Bayonne, à qui il m'arrivait de servir la messe en voisin à la maîtrise. C'est un comble. Il ne pouvait pas ignorer l'existence d'un abuseur sous son toit, puisque le supérieur du Staritz le savait. Aujourd'hui, Arsaindeia est une résidence d'habitation. J'ai rencontré les responsables d'Arditeia en espérant y trouver les archives qui ont été classées en 1981 par une personne que j'ai rencontrée. Mais ces archives ont disparu. Déplacées vers l'évêché ou détruites. Cependant, il reste une très belle trace de cette époque, une chapelle construite dans une démarche thérapeutique par ses prêtres, puis décorée dans les années 80. C'est la chapelle aux icônes, d'inspiration orthodoxe à la suite d'un voyage en Terre Sainte de l'abbé Courtelard, qui est enterré sous le cœur de cette chapelle. Il y a un absent de taille, je dirais des absents de taille, les victimes. À l'époque, on soignait les prédateurs, mais pas leurs victimes. Disait Monseigneur Bernard Dubasque, aujourd'hui il faudrait soigner les deux, les prédateurs, pédophiles, et les victimes. Il me semble aussi qu'il serait juste que soit apposée dans cette chapelle une plaque en mémoire des victimes, comme d'ailleurs à la cathédrale de Bayonne, en mémoire de toutes les victimes du diocèse. Enfin, le village. Il n'est pas géographique, il est plutôt social, ce village. Un dicton africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Dans Spotlight, film américain qui raconte l'enquête d'un petit groupe de journalistes du Boston Globe, un personnage ajoute « Il faut un village pour le détruire », en indiquant le rôle de l'omerta, de l'inertie de la justice, parfois la complicité de procureurs, et l'absence de courage des responsables politiques pour prendre ce problème en charge efficacement. On pourrait ajouter qu'il faut un village pour reconstruire les victimes. La parole ne se libère que si l'écoute se libère. Jean-Marc Sauvé pointait du doigt, je le cite, une indifférence profonde, totale et cruelle à l'égard des victimes. Elles ne sont pas crues, pas entendues, et on considère qu'elles sont peu ou prou responsables de ce qui leur est arrivé. Heureusement, les choses commencent à bouger. Pour ma part, depuis que j'ai commencé à témoigner, j'ai trouvé une écoute ouverte auprès de ma famille, de mes amis, de deux psychologues cliniciennes. L'une à l'INIR, l'Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation, que j'ai eue par téléphone. L'autre à l'Association Citoyenneté et Justice du Pays Basque, qui a le très grand avantage d'être sur Bayonne et de proposer un excellent service psychologique et juridique auprès aussi de l'Institut Louis Joinet, l'IFJD, Institut francophone pour la justice et la démocratie, et aujourd'hui de Move Enfants. J'ai aussi rencontré trois journalistes attentifs, humains et très professionnels, à Sud-Ouest et à ici, Pays Basque. Dans ce village, j'inclurai aussi vous tous qui vous êtes déplacés un samedi pour nous écouter. Merci pour votre écoute.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Arregui, d'avoir accepté pour Radio La Pourdie, donc, une nouvelle fois de livrer votre témoignage. Donc, comme vous l'avez raconté, vous avez été victime d'agressions sexuelles, notamment à la maîtrise épiscopale de Bayonne, et puis ensuite des violences psychologiques.
Oui, c'est une violence morale dans le fait que j'ai été soumis au silence. Et puis aussi culpabilisé, parce que le fait de me donner des conseils sur ma tenue vestimentaire et sur mon comportement, hein, c'est-à-dire la sensibilité, revient à dire qu'au fond, j'étais en partie responsable. Si je ne voulais pas que ça m'arrive de nouveau, il ne fallait pas que je sois sensible et que je ne porte pas de chemise de couleur claire. Ça s'appelle ni plus ni moins qu'une culpabilisation de ce qui s'était passé. Voilà. Et en plus, sur le plan moral, c'est aussi une non-dénonciation. Et on peut dire aussi que c'est une non-assistance à personne en danger.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Arregui, d'avoir accepté donc de donner votre témoignage sur notre antenne. Merci à vous. Violence sexuelle, écouter, protéger, réparer, forum du 15 mars 2025 au campus de la Nive à Bayonne, forum organisé par l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, IFDJ Louis Joannet, intervenant Magali Besse, directrice de l'IFDJ Institut Louis Joannet.
On va passer aux solutions non judiciaires. Et comme l'a dit Laurée, l'idée n'est pas du tout d'opposer les solutions, d'opposer les acteurs, bien au contraire, mais de montrer comment ils peuvent agir ensemble dans la complémentarité et la collaboration. Donc je vais demander à Madame Véronique Margron, à Monsieur Garapon, à Jean-Pierre Massias de nous rejoindre. Donc on va commencer dès maintenant par une première intervention. Donc, de sœur Véronique Margron, qui est présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, et qui va retracer aussi le parcours de la COREF, hein, et comment la COREF s'est engagée, d'abord à travers la CIAS, puis à travers la CRR, justement, dans les questions de réparation. Mais je vous laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Tout ce que nous faisons ou essayons de faire sera toujours minuscule. Sera toujours très en deçà, très, très, très en deçà de toutes les tragédies d'existence que nous avons écoutées tout à l'heure. Et il me semble que c'est peut-être d'abord cela que je veux vous dire et dont je suis si consciente dans ma responsabilité actuelle, donc de présider la Conférence des religieuses et des religieux de France, donc qui réunit l'ensemble des congrégations religieuses catholiques qui sont en France de femmes comme d'hommes. C'est que malheureusement, si malheureusement, il n'y aura jamais de réponse à la hauteur des tragédies vécues, des drames subis, de toutes ces vies fracassées ou empêchées, comme dit le rapport de la CIAS, voilà, rien ne sera jamais à la hauteur. Mais c'est peut-être parce que rien ne sera jamais à la hauteur que ce qu'il est possible de faire, il faut le faire. Et il me semble que c'est cela qui nous a guidés, en tout cas. Nous avons voulu que ce soit ceci qui nous guide, de dire... Ça n'est pas parce que nous ne serons jamais à la hauteur, que nous ne serons jamais quittes devant les victimes, qu'elles soient une ou qu'elles soient 300 000, une seule suffit, que nous pouvons baisser les bras, bien au contraire. Il me semble que notre responsabilité, c'est justement de prendre nos responsabilités, sachant qu'elles ne seront jamais. Jamais à la hauteur du mal subi par chacune des victimes. Donc la première chose que nous ayons fait en lien avec la Conférence des évêques de France à la fin 2018, moi j'étais présidente depuis un an, et devant l'afflux de victimes, de témoignages de victimes que je ne connaissais nullement, dont je ne connaissais nullement les congrégations d'ailleurs non plus. J'arrivais, donc je ne connaissais rien de tout cela. grâce à la discussion, la conversation longue avec des experts extérieurs, justement à l'Église catholique, la décision a été prise de demander la création de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, qui a donc été présidée par M. Jean-Marc Sauvé. Il me semble que c'était cela, la première justice que nous devions aux victimes que nous ne connaissions pas encore, dont nous ne connaissions rien à ce moment-là de l'ampleur, du nombre, dont nous pouvions à écouter une victime, pressentir le caractère systémique, il suffit d'en écouter une pour savoir que c'est systémique. Il n'y a pas besoin d'en écouter mille, une suffit. Mais voilà, la première chose qui nous a frappé, sauté à la figure, c'est qu'il était impossible d'être juge et partie, quelle que soit notre volonté d'ailleurs, quelle que soit parfois quand même notre bonne volonté même, que tout cela était impossible, donc qu'il fallait s'en remettre, et donc s'en remettre à d'autres pour le pire qui puisse être commis, à savoir des violences sexuelles, des crimes contre des enfants ou contre des adultes d'ailleurs, très très souvent rendus vulnérables par leur agresseur, mis sous emprise par leur agresseur. Et ça a donc été la décision de la CIAZ, dont Antoine Garapon, ici présent, était membre. Donc cette commission, comme vous le savez, qui a travaillé, qui a rendu son rapport en 2021, le 5 octobre 2021, une date que je n'oublierai jamais de ma vie, devant ce tsunami. Et il me semble que, bien avant même que cette commission rende son rapport, a écouté les membres, a écouté les victimes, nous ne pouvions pas ne pas dire, ne pas sentir, ne pas être percuté dans notre propre chair par notre responsabilité institutionnelle. C'était une terrible évidence. Il n'était pas possible de dire que tous ces agresseurs, parfois au féminin, avaient pu commettre leurs méfaits parfois pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. En toute impunité, sans que tout un monde entoure bien plus souvent que tout un village, n'y ait participé prou ou prou, ou de façon active ou de façon passive. Il y avait eu dans ces mêmes années un reportage que vous avez peut-être vu sur Arte, qui s'intitulait « Les religieuses agressées », qui a été un choc terrible, en tout cas, au sein du catholicisme français. Découvrant que nombre de religieuses, à l'étranger comme en France, étaient agressées par des prêtres qui étaient leurs conseillers ou directeurs spirituels, leurs confesseurs, leurs professeurs, leurs tout ce que vous voulez. Donc cette conscience si charnelle, si j'ose m'exprimer ainsi, que toute l'Église, d'une manière ou d'une autre, a participé dans sa responsabilité à ces abominations, non pas évidemment de façon active, mais par le discours tenu sur la place des prêtres, sur la place des religieux, sur ces hommes de Dieu intouchables. Toute cette aura, ce que le pape François lui-même nomme le cléricalisme, sur cette façon de mettre à part ces personnes, tout cela participe et a participé de leur impunité. Donc la responsabilité collective de l'ensemble des religieux, y compris de nous, les femmes, où nous avons découvert beaucoup de victimes dans nos propres congrégations. Moi, j'ai découvert une sœur centenaire qui n'avait jamais parlé et qui se souvenait de l'odeur de son agresseur. Elle avait été violée à 8 ans. Elle en avait 100. Donc vous ne vous remettez pas, et heureusement que vous ne vous remettez jamais, de découvrir tout cela et d'écouter chacune et chacun de ces personnes et d'être traversé intimement par ce que vous entendez, qui est aussi inimaginable que réel, aussi impensable que réel, et qu'il faut penser. Et donc, dans la fin du travail de la SIAZ, avant le rapport, avant que le rapport ne soit rendu public, donc les religieux et religieuses de France, nous avions déjà décidé qu'il y aurait une suite au rapport de la SIAZ, qui était en quelque sorte un premier acte de justice à notre portée, que nous devions porter nous-mêmes dans notre responsabilité. Que le travail fait par cette commission de Jean-Marc Sauvé, qui a donc été financée par définition par l'Église en France, les religieux et les diocèses. Donc nous avions décidé la création de la commission qui allait s'appeler la commission reconnaissance et réparation, et dont nous avons entendu parler plusieurs fois cet après-midi. Cette commission avait pour tâche, elle a toujours pour tâche, donc présidée par Antoine Garapon, ici présent, et dont des membres sont dans la salle et que je salue très chaleureusement, de pouvoir recevoir toutes les victimes de religieux, les victimes aussi de laïcs des institutions religieuses quand ces congrégations sont d'accord pour cela, pour prendre en charge aussi les victimes de laïcs, car comme on l'a entendu, les tragédies vécues sont les mêmes, les empêchements d'être, les traumatismes sont les mêmes, bien malheureusement. Donc pour les recevoir, pour les croire, pour donner du poids à leurs paroles, avant toute chose, donner du poids, rompre tout ce que nous avons entendu sur ce silence mortifère, sur ce silence organisé qui a tant participé de l'impunité des agresseurs et des institutions autour, et pour pouvoir effectuer avec la congrégation concernée un chemin, un processus de réparation de l'irréparable, car nous l'avons entendu et nous le savons intimement, charnellement, jamais il n'y aura de réparation à la hauteur, jamais, quels que soient les montants, quelles que soient les décisions, jamais, parce que malheureusement, personne de nous n'efface les drames vécus, personne de nous ne revient en arrière, personne ne retrouve son enfance de ses 9 ans. Personne. Donc il faut partir de cette dramatique réalité pour se dire qu'est-ce qui aujourd'hui peut permettre à quelqu'un d'être plus vivant. Et le travail confié à la CRR, c'est juste, bien modestement, cela. Comment permettre à des personnes dont on ne peut pas faire, comment dire, revenir en arrière, des fracas, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'aujourd'hui, elles puissent, à ses propres yeux, aux yeux des siens, être plus vivantes, être un tout petit peu restaurées. Malheureusement, pas plus. Mais autant que faire se peut, pas moins non plus. Donc c'est vraiment ça notre responsabilité, car la question qui nous hante, c'est celle-là, c'est de prendre nos responsabilités à nous, tout ce que nous avons entendu et qui est très important, que ce soit sur les procédures judiciaires, y compris sur cette capacité créative, dans des procédures judiciaires, c'est essentiel. Nous n'avons pas le pouvoir de réformer quoi que ce soit en ce domaine, mais nous avons le devoir, l'obligation éthique, humaine, de tenter de prendre nos responsabilités et d'aller au bout. Donc pour cela, la CRR, et Antoine va en parler dans une seconde, c'est bien l'enjeu de dire il faut pouvoir, pardonnez-moi l'expression, mais embarquer la congrégation. Car seule la congrégation peut venir devant la victime, en présence bien sûr de la CRR, pour dire oui, je reconnais le mal qu'une personne de notre congrégation, qu'un membre de la congrégation a commis envers vous, et je reconnais le mal que notre congrégation vous a fait en cachant, en minimisant, en euphémisant les méfaits que vous avez subis. Seule la congrégation, le responsable d'aujourd'hui, y compris s'il n'était peut-être pas né, en tout cas s'il n'était pas dans la congrégation quand les méfaits se sont produits, peu importe, Aujourd'hui, c'est lui qui est en responsabilité. Et donc, c'est lui qui doit prendre cela sur son dos, que de reconnaître cela et d'être dans ces processus. Encore une fois, qu'est-ce qui peut permettre de la restauration aujourd'hui ? Que ce soit l'argent, que ce soit en même temps, très souvent, des réparations non financières. En vous écoutant, monsieur, je me disais que, voilà, pour moi, une réparation non financière qui serait magnifique en vous écoutant, serait que vous puissiez prendre un Boeing 747, je ne sais pas si ça existe encore, mais non, pardon. Bon, alors quand même l'équivalent aujourd'hui d'un Boeing 747 avec votre famille et aller dans le cockpit, visiter, c'est-à-dire essayer de remonter, de retrouver, de pouvoir revivre une fois quelque chose d'un heureux souvenir d'enfance. Voilà. Chaque victime invente ce qui va, pour elle, être un peu comme un baume aujourd'hui, à côté encore, hein, une fois, à côté de la question des réparations financières. Car ces deux modalités sont ce qui vient de fait signifier que la parole de la congrégation religieuse est vraie quand elle a dit « Je vous crois, je le reconnais, je prends sur moi ». Car comme, oui, monsieur, je vous donne la parole dans un instant. Comme on dit beaucoup de victimes, avec tant de raisons, dans l'Église catholique, on parle très bien. Et donc, les réparations, ce qu'on appelle, avec un terme un peu indu, hein, mais comment faire, les réparations non financières et financières sont ce qui vient dire, oui, c'est vrai, ce que je vous ai dit, monsieur, en reconnaissant notre propre responsabilité et la culpabilité du fauteur, de l'agresseur, voilà, je le signe de cette façon. C'est ce que, encore une fois, bien pauvrement, bien modestement, nous essayons de faire, bon an, mal an, avec des échecs, avec heureusement des vies, je crois, aussi un peu restaurées, en tout cas, qui peuvent retrouver quelque chose de vivant. Et c'est ce que je ne peux que, voilà, que souhaiter de toute mon âme. Et il me semble que ce chemin-là, un parmi d'autres, hein, qui ne prétend à aucune exhaustivité, peut faire partie de ce faire justice. On l'a entendu, plusieurs manières d'essayer de faire justice, en particulier quand la justice civile ou pénale ne peut pas répondre. Et donc, voilà, nous avons simplement essayé de prendre notre part de responsabilité en ce domaine. Je vous remercie.
Intervention d'Antoine Carapon, président de la commission reconnaissance et réparation de l'Église catholique de France.
Je ne suis pas l'Église, hein. Moi je suis de la commission, mais je pense que c'est une très bonne question. Dans la SIAZ, j'étais membre de la SIAZ. Et on avait ces historiens, comme l'a rappelé Jean-Baptiste Arégui. Et c'était, on a beaucoup travaillé sur ce point-là. On a compris des choses qui étaient un peu surprenantes. En réalité, il y a des moments de l'histoire, même au XXe siècle, où l'Église était beaucoup plus consciente de la fragilité de ses prêtres que maintenant. Et que tout le travail qu'a fait Marc Corrèzon et le travail, je ne connaissais pas le centre de Cambo, c'était quelque chose qui s'était pris au sérieux dans les années 50. Et ça a disparu en 68. En 68, il n'y a plus de ce souci de soigner les prêtres. Et je pense que la question est de nouveau, bien sûr, posée. Ça, c'est pas ma responsabilité. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Moi, j'étais membre de la SIAJ, j'étais juge judiciaire et maintenant je préside la CRR. En tant que juge judiciaire, j'ai entendu des choses intéressantes parce que il me semble qu'il y a l'éternelle question de la prescription. Et la prescription, la prescription, ça peut être un faux semblant. Parce qu'on peut allonger la prescription tant qu'on veut, quand on n'aura pas de preuves, si on veut respecter les règles du procès pénal, ça risque de ne pas apporter grand-chose. Alors, il y a dans ce qui a été dit cet après-midi par les avocats, par Maître Bianco et Maître Marguerot, me semble très intéressant parce que c'est ce que j'ai senti, moi, dans la présidence de la CRR, c'est qu'il y a des cas où il y a des gens qui ont été des victimes isolées, un par établissement ou dans un camp de vacances. Et puis, il y a des clusters, si vous passez l'expression. Il y a des clusters, il y a comme Betaram, où il y a un véritable système. Et dans ce cas-là, on pourrait penser à je me retourne vers Jean-Pierre Macias. C'est-à-dire, finalement, dans le droit, ce qu'on a inventé au cours du XXe siècle, c'est les crimes de masse, c'est la catégorie du crime de masse. Et là, à Betaram, on est en face d'un... Moi, j'appelle ça un crime massif. Et c'est-à-dire peut-être qu'il faudrait penser à un statut particulier pour, dans ce cas, des crimes massifs. Je trouve très intéressante aussi l'idée de mélanger la logique civile à la logique pénale, ce qui a été fait dans un dossier, ça me semble extrêmement intéressant. Sans compter ce qu'on disait ce matin, les centres d'accueil holistiques, je pense que c'est des vraies solutions. Alors j'en viens à la CRR. À la CRR, suite à le travail de la CIAS, on a essayé de mettre en place un système de réparation. Alors réparation financière, non financière. J'aborde le point de vue financier que vous posiez Olivier Bunel. Financièrement, nous, notre souci, c'était de dire il faut qu'on mette en place un système qui tienne le coup, qui tienne la longueur. Parce que on a des expériences qui se sont faites à l'étranger, où ils ont donné très très généreusement au premier cas, puis après il n'y a plus d'argent dans la caisse, et les premières ont été réparées, et après plus rien. Donc nous, on a notre souci, notre objectif, c'était de se dire on a traité quand même plus de 1200 cas. Il y a plusieurs millions qui ont été versés, pas par nous, par les congrégations, pour une moyenne de 37 000 euros, mais parfois 60 000 et parfois moins. Alors, vous disiez, et vous avez raison, c'est-à-dire que quand vous prenez, si vous prenez toute la gravité des faits qui vous ont été, que vous avez subis, et les 35 000 euros que vous avez, qu'on a suggéré, que la CRR a demandé à la congrégation de vous verser, c'est vrai que ça paraît extrêmement faible. Alors, moi, ce que je pense qu'il y a une question lancinante, qui est la responsabilité de l'État ou la garantie de l'État dans l'indemnisation des victimes d'abus sexuels de l'Église. Et on pourrait d'ailleurs agrandir sur le problème des violences sexuelles. Et ça, c'est l'intérêt d'une journée comme celle-ci, c'est de pouvoir faire sortir des idées, faire prendre conscience à des tas de gens, aux étudiants, à des juristes, à des non-juristes, des membres de l'Église, faire prendre conscience de la nouveauté, de la prise de conscience de ce qui s'est passé. C'est tout à fait nouveau. Avant la CIAS, j'ai participé à un certain nombre de visites qu'on faisait à la CIAS. C'était pas cette ambiance-là. Hein, les gens découvraient une sorte de sidération. Donc aujourd'hui, il faut continuer cette revendication d'une réparation également financière. Et ce que je retire de cette journée, c'est d'abord plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on voit bien que politiquement, la dénonciation qui a été faite par Maître Bianco de la justice n'a pas été à la hauteur, il a dit. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'a pas été à la hauteur parce qu'il n'y avait pas cette prise de conscience qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que la loi évolue. Les députés l'ont dit ce matin. La députée l'a dit ce matin avec d'autres avocates. C'est qu'il faut que la législation évolue. Il faut aussi que, à mon avis, il y a le problème de la prescription. Je dirais qu'il faudrait partir du principe qu'une justice doit toujours être possible tant qu'une victime est vivante. Et même, comme on l'a vu dans le cas des Inuits, d'un point de vue intergénérationnel. Et donc inventer des justices, la justice pénale quand c'est possible, elle n'est pas toujours possible. Et après d'autres formes de justice comme celle que, à l'image bien imparfaite que celle qu'on est en train d'imaginer, de mettre en place bien imparfaitement. Alors, pour terminer, moi je dirais deux idées, si vous voulez. Deux idées. L'avenir, il est à combiner. Il n'y a pas une voie pénale et la voie restaurative. Il y a une combinaison à trouver entre ces différentes formes de justice, de façon à ce que toutes les victimes, tant qu'elles sont vivantes, et même si l'auteur est décédé, puisse recevoir justice. Ça veut dire qu'il faut que le service public de la justice s'enrichisse d'une nouvelle sensibilité pour les victimes d'abus sexuels. Et puis vous avez, d'ailleurs vous l'avez dit, ça a été dit cet après-midi, je crois que c'est vous, Olivier Bunel, qui le disait, une égalité de traitement entre les victimes. C'est-à-dire, oui, 35 000 euros, c'est pas très élevé, mais il faut tenir la route, comme je vous l'ai dit. Mais ce qui est certain, c'est que ça soit, et vous le disiez, que ça soit par un laïc ou que ce soit par un clerc, les dégâts sur la victime, ils sont absolument identiques. Et donc, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui va être décidé dans l'avenir pour Bétarame, j'espère vraiment, on fera tout à la CRR pour qu'il y ait un maximum de traitement et des dossiers avec le plus grand soin, tout le soin qu'on peut y mettre. Mais surtout, garder, conserver l'égalité de traitement pour toutes les victimes de Bétarame.
Merci beaucoup et merci beaucoup de votre présence à tous les deux aujourd'hui. J'ai pas fait de relais, mais ça boucle la boucle avec ce que je disais en introduction ce matin, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés initialement dans les crimes de masse. Et je pensais à ce titre, ces crimes qu'on ne peut ni juger ni pardonner. Et on retombe en fait sur des questions comme ça. Et je suis pas sûre qu'à l'époque on imaginait qu'on appliquerait tout ça sur cette thématique. Et donc on va évoquer un troisième mécanisme. Alors c'est aussi pour ça que c'est important de les expliquer, parce que c'est pas non plus évident pour les victimes de se repérer dans tout ce circuit en fait, et dans toutes les options qu'on essaye de leur proposer. Et donc dans la congrégation de Bétarame a pris la décision de créer une commission d'enquête indépendante, dont je précise, même si Jean-Pierre Massias va le préciser, dont je précise qu'elle est évidemment, elle doit agir en complémentarité avec la CRR, dont l'action va se poursuivre, et bien heureusement sur la question de l'indemnisation des violences sexuelles commises par les religieux. Et donc la congrégation de Bétarame a choisi de confier à Jean-Pierre Massias la présidence de cette commission, et je pense que ce serait... Alors aujourd'hui, il n'y aura pas tous les détails donnés, hein, il y a encore du travail à faire. Mais l'objectif, c'est aussi au moins déjà de présenter le cadre de cette commission, à quoi elle va servir à l'ensemble des personnes présentes, même si, je le rappelle, on aura l'occasion de discuter avec les parties prenantes après aussi le forum pour qu'ils puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. La parole est à vous.
Merci.
Jean-Pierre Massias, président de l'IFDJ, Institut Louis Joanet et professeur de droit à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.
Moi, je vais rebondir sur ce qu'on dit sur Véronique Marron et Antoine Garapon sur deux choses. D'abord sur l'imperfection effectivement des mécanismes mis en place. C'est une évidence. C'est une évidence, et c'est une évidence difficilement supportable, même si je sais que ceux qui sont à ma droite à cette table, enfin sur cette scène, ont beaucoup fait et beaucoup se sont beaucoup battus dans leurs institutions respectives. Sœur Véronique notamment, pour imposer cette voie-là. Alors, pourquoi créer une commission? Et pourquoi créer une nouvelle commission? Parce que déjà, ça fait beaucoup de commissions. Eh bien, peut-être pour rebondir exactement sur ce qui a été évoqué, c'est-à-dire le parallèle qu'on doit faire entre les crimes de masse, les crimes contre l'humanité, et le crime de violence sexuelle, tel qu'il existe aujourd'hui en France. Magali Bess l'a rappelé ce matin. C'est près de 250 000 victimes par an de violences sexuelles. C'est-à-dire qu'on est dans un chiffre dont l'importance numérique va désarmer même le système judiciaire. Parce que même si on pouvait ne pas avoir de prescription, même si on pouvait trouver des voies pénales, il faudrait trouver des juges faudrait trouver des juridictions. Ça me fait penser un peu, toute proportion gardée, à ce qu'on a pu connaître au Rwanda, quand à la fin du génocide, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas juger les génocidaires parce que tout simplement, on n'avait pas assez de juridiction. Et qu'à un certain moment, même si c'est insupportable, l'intensité du crime désarme en partie la justice. Et c'est pour ça que si on va, et on pousse le parallèle jusqu'au crime contre l'humanité, et moi je suis d'accord sur le fait que ça doit permettre peut-être de lever cet obstacle de la prescription, et que peut-être après tout, pourquoi pas, ça peut se plaider. Hein, on peut imaginer ça, mais il a fallu mettre en place d'autres instruments. La commission reconnaissance et réparation, la science tout d'abord, excusez-moi, la science tout d'abord, qui a été un exercice très important, et je crois qu'il faut rendre hommage au président Sauvé qui a eu un rôle extrêmement important dans ce domaine-là, la CRR, parce que ça participe de la réparation, et que même si la réparation elle est extrêmement incomplète, extrêmement insuffisante, elle est posée comme principe en dehors des réparations judiciaires, et puis maintenant il y a la commission qui est mise en place, que nous concevons comme une commission vérité, comme ce qui est, toute proportion mise à part, a été mis en place en Afrique du Sud ou en Argentine ou dans d'autres États, c'est-à-dire une commission dont l'objet est d'entendre les victimes, de croire les victimes, d'établir le récit global de la violence. Établir le récit global de la violence, et Laurie tout à l'heure disait combien ça pouvait être important ensuite pour les juridictions de s'emparer de cette vérité-là, et quand je parle de cette vérité-là, je parle de la vérité des victimes, de la vérité de leurs ressentis, et puis de se poser des questions, de savoir comment des choses ont été possibles. Comment a-t-on pu, dans un même endroit, dans un même espace, concentrer autant de violences sadiques, autant de brutes, autant de pervers, sans que rien ni personne ne soit capable de s'y opposer? Et c'est ça la véritable question. La question est bien sûr de savoir combien de crimes ont été commis? Mais la question est de savoir pourquoi ces crimes ont été commis, ou plutôt, pourquoi ces crimes n'ont-ils pas été empêchés? Alors, ça ne réparera pas les victimes. Ça n'entraînera peut-être pas la condamnation des bourreaux, mais peut-être que ça permettra de fabriquer des instruments pour éviter que ce genre de violence ne puisse se reproduire dans l'avenir. En tout cas, ça nous permettra de savoir comment, à un moment donné, une institution qui n'aurait jamais dû faire ça, a fait ça sans que personne autour de cette institution et dans cette institution ne soit capable d'empêcher. Et cette commission, elle a cet objet-là, de réunir des experts historiques, juridiques, psychologiques, sociologiques, pour savoir comment les choses se sont passées, et de faire venir en même temps des gens qui y ont été impliqués. Et notamment, et je le dis tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, donc je le redis, cette commission, et on en parlera tout à l'heure, elle est ouverte aux victimes. Elle est ouverte aux victimes, non pas pour témoigner, bien sûr, mais aussi pour en faire partie. Pour en faire partie, parce que je crois que c'est important que vous soyez dans la commission, pour travailler avec la commission. Donc, comment va travailler cette commission? Elle va travailler d'abord dans l'étude de ce qu'on appelle, en termes un peu pompeux, la littérature pertinente, c'est-à-dire les données, les archives, etc., etc. Elle va entendre les gens qui souhaiteraient parler, et je pense notamment aux victimes. Elle va aussi demander à des gens, peut-être qui ne souhaitent pas de parler, de nous parler. Alors on n'a pas les moyens de les contraindre, hein, on n'a pas les instruments que peut avoir une juridiction pour contraindre un témoin récalcitrant à venir, mais en revanche on peut très bien dire que telle personne n'a pas voulu s'exprimer, ça c'est tout à fait possible. Le principe, et là encore j'ai bien conscience que nous n'arriverons pas à tout faire. Nous n'arriverons pas à tout faire. Et peut-être que les recommandations de la commission, elles ne seront pas suivies. Mais ça sera à ceux qui ne les suivront pas d'assumer de ne pas les suivre. Mais elle sera avec d'autres mécanismes, comme un élément de compréhension, de dénonciation, et elle proposera également des éléments de réparation. Elle les proposera. Notre principe, et puisque c'est moi qui vais présider la commission, est extrêmement clair. Aucune victime ne doit rester sur le bord du chemin sur des raisons de procédure, d'identité des coupables, de nature des violences. Ça, c'est une chose qui, à mon avis, est absolument fondamentale. Aucune victime ne doit pouvoir être exclue de ce processus-là, et les victimes doivent être traitées, et je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, de la même manière dans des situations comparables. Distinguer entre les victimes de violences sexuelles commises par des prêtres ou commises par des laïcs, c'est tout simplement indécent. Indécent, et
Notre première proposition, alors je ne serai peut-être pas un président très démocrate de la Commission, mais la première proposition que je souhaiterais qu'on fasse, c'est de faire en sorte que tout ce qui touche aux réparations matérielles soit traité par la même institution, c'est-à-dire la CRR. La CRR, elle est sûrement perfectible, mais au moins elle peut garantir une certaine forme d'égalité. Alors, après, on peut imaginer d'autres fonds, on peut imaginer d'autres systèmes, mais pour moi, aucune victime sur le bord du chemin et l'égalité de traitement pour les égalités de violence me paraissent être des éléments, je reprends un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, des lignes rouges qui sont infranchissables, en tout cas infranchissables. Je ne sais pas si je pourrais les empêcher d'être franchies, mais si jamais elles devaient être franchies, ça serait sans moi. Et c'est aussi là-dessus que je voudrais insister. Prendre la balle au bon, accepter la proposition de la communauté de Bétarame n'est ni évident ni confortable. Ni évident parce que c'est évidemment une tâche extrêmement difficile et d'autant plus difficile que les souffrances sont d'une extraordinaire puissance et que la colère est extrêmement aiguë et qu'il est tout à fait normal que la colère soit aiguë. C'est pas évident de prendre ça, c'est pas facile. Et puis, c'est pas évident non plus parce qu'on se dit, n'est-ce pas collaborer avec l'institution qui, quand même, somme toute, je ne parle pas éventuellement des membres qui la composent aujourd'hui, mais avec l'institution qui a commis ces crimes, ou les a laissés commettre. Nous avons fait le pari, à l'Institut Jouannet, de tenter cette expérience. Tenter cette expérience, ça ne veut pas dire qu'on va jouer avec les victimes et on va les transformer en cobayes de laboratoire. Ça veut dire qu'on a essayé de prendre en charge cette expérience-là parce qu'on s'est dit que peut-être ça pourrait avoir des résultats et que peut-être ça pourrait améliorer les choses. Nous ne sommes sûrs de rien. Nous sommes simplement sûrs de la volonté que nous avons de mettre en place cette institution et de l'indépendance que nous allons volontairement y assister. Je ne sais pas si nous pourrons faire ce que nous voudrons. Je sais, et je prends cet engagement ici dans cet amphithéâtre, qui est en plus mon amphithéâtre, puisque c'est moi qui fais cours, mais dans cet amphithéâtre-là, je prends l'engagement que personne ne me forcera à faire ce que je ne veux pas faire. Et je demande qu'ici, l'Institut Jouannet soit jugé, non pas pour ce qu'il pourrait être, un complice, mais pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il a fait en Centrafrique et ce qu'il fera peut-être demain dans cette commission. Et c'est pour ça qu'on a besoin du soutien des victimes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'engagement de tous. À un moment donné, la protestation, elle est fondamentale. Et sans la protestation, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et sans l'héroïsme des victimes de Bétarame qui se sont manifestées, qui ont refusé d'accepter, nous ne serions pas là. Sans les protestations, y compris celles que je trouve au moins formellement excessives, nous n'existerions pas. Mais maintenant, une fois que la protestation est faite, est contenue, est maintenue, parce que c'est un aiguillon qui va nous pousser, une fois que la protestation est faite, il faut aller au-delà. Il faut essayer de construire cette protestation. Et c'est aussi ça, peut-être, le sens de cette journée. Construire sur cette protestation, partir de l'indignation et de la douleur pour tenter, non pas de la dépasser, non pas de l'oublier, mais quand même d'avancer, mais quand même de faire quelque chose. On a parlé du rugby tout à l'heure, notamment d'un poste que et vous et moi semblons bien connaître. Eh bien, quand une mêlée n'avance pas, au moins on fait en sorte qu'elle ne recule pas, et on serre les dents, et puis peut-être qu'on va avancer. Alors je ne vous garantis pas d'enfoncer cette mêlée-là, mais je vous garantis de toutes mes forces que l'Institut Jouannet sera aux côtés des victimes. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons essayer de faire le plus possible pour cette commission. J'ai proposé tout à l'heure, et je le dis en public, à Arnaud Gallet de faire partie des superviseurs de la commission. Il n'a pas voulu. Je lui repropose. Je crois que les choses ont un peu évolué. Je me réjouis de cette évolution-là. Parce que si on n'est pas tous ensemble pour se battre contre cet ennemi-là, qui est la violence sexuelle et la barbarie que vous avez subie, on ne gagnera pas. Merci beaucoup.
C'est avec l'intervention de Jean-Pierre Massias, président de l'IFDJ Louis Jouannet, Institut francophone pour la justice et la démocratie, également professeur de droit à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, que s'achève donc la retransmission de larges extraits de la table ronde qui s'est déroulée le 15 mars 2025 au campus de la NIV à Bayonne l'après-midi. Forum intitulé « Violences sexuelles, écouter, protéger, réparer ». Nous remercions particulièrement M. Jean-Baptiste Arregui, victime d'agression sexuelle à la maîtrise épiscopale de Bayonne, qui pour la première fois a donné son témoignage en public lors de ce forum le 15 mars et qui a accepté d'enregistrer son témoignage à nouveau sur notre antenne. Merci à lui.